Bien, bonjour. Je vais laisser, bien sûr, les gens s'installer tranquillement, mais autant que j'occupe un peu l'espace sonore. Donc, je vous remercie pour votre patience. Je présente toutes mes excuses en tant que modérateur de cette séance pour le retard avec lequel elle va commencer du fait des aléas du direct et des complications techniques. Bon, malheureusement, je ne dispose pas de machine à ralentir le temps qui nous permettrait de retrouver l'étendue complète de la séance et qui plus est, compte tenu des problèmes techniques, j'arrêterai de toute façon la séance 5 minutes avant l'heure dite, quoi qu'il arrive. Donc ce sera une séance courte. Séance courte sur la perception du temps, ce qui finalement voilà est une sorte d'expérimentation in vivo. Voilà, donc vous êtes, comme vous l'avez compris, les cochons d'Inde. Nous-mêmes ne sommes pas très loin de ça non plus. Alors, bien, je vais commencer tout de même un petit peu. La perception du temps. Alors la perception du temps chez les aliens, les créatures diverses, même chez les êtres humains, le microbiote, tout ce qu'on pourra susciter éventuellement en cours de route. Alors une manière canonique de poser la question du temps, c'est de revenir à cette fameuse exclamation d'Augustin, dont vous avez déjà entendu parler, j'imagine. Qu'est-ce donc que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais, mais qu'on me demande de l'expliquer, je ne le sais pas. Alors évidemment, on a fait du progrès depuis Augustin, donc vous avez déjà entendu toutes sortes de théories à ce sujet, mais tout de même. Et surtout, parmi les multiples chemins vers lesquels cette exclamation peut nous mener, je ne suivrai pas vraiment la route d'Augustin, mais je choisirai de retenir la difficulté qu'il peut y avoir à se saisir de l'expérience du temps, pourtant qui est toujours présente à notre conscience de manière intuitive finalement, et dont nous ne saisissons pas forcément tout ce qu'elle peut avoir de construit. Et c'est donc cette expérience à la fois intime et potentiellement partagée que nous allons essayer d'explorer, sur laquelle nous allons essayer de réfléchir un petit peu. Et un des nombreux bienfaits de la littérature, des arts narratifs en général, est de nous permettre de nous représenter l'intériorité d'autres humains, voire d'autres créatures, inventées ou non d'ailleurs, et la science-fiction notamment, parfois, tente la gageure de nous faire ressentir ce que d'autres êtres, mutants, animaux, végétaux éventuellement, extraterrestres ou terrestres d'ailleurs, individus plongés dans des sociétés radicalement différentes, donc de tout ce que ces êtres ressentent et perçoivent du temps. Un autre point d'entrée dans cette question pourrait être le fameux « J'avais atteint l'âge de 1000 km » qui ouvre le roman « Le monde averti » de Christopher Priest. Donc, comment, dans la science-fiction, produire en nous un décentrement tel que nous soyons à même d'envisager la temporalité avec d'autres yeux et d'autres concepts? Alors, pour nous en parler aujourd'hui, pour en discourir et pour en discuter avec vous, puisque j'ai pour habitude d'ouvrir assez rapidement la discussion avec le public, donc préparez et affûtez vos questions, faites-les rapides. Hein. Nous avons Jean-Sébastien Steyer du Muséum National d'Histoire Naturelle, paléontologue au CNRS, qui est spécialiste, comme son titre l'indique, des dinosaures, de la vie ancienne, mais qui a aussi réfléchi de façon approfondie sur les animaux du futur, donc dans son ouvrage « Demain, les animaux du futur », et d'une manière générale, qui réfléchit sur la biologie spéculative, et je pense qu'il aura à cet égard de nombreuses choses à nous présenter aujourd'hui. À sa gauche, Sylvie Lenné, professeur en sciences de l'information, mais surtout ici nouvelliste de talent et souvent dont les talents étaient souvent salués par des différents prix. Je signale, comme on le voit passer sur le petit diaporama, qu'il y a une somme des nouvelles de Sylvie Lenné qui est fidèle à ton pas balancé, qui est disponible facilement. Et plusieurs des nouvelles de Sylvie pourront être convoquées aujourd'hui. J'espère qu'elle nous fera le plaisir de développer la façon dont elle les a conçus. À la gauche de Sylvie Lenné, Péric Pitrou du Collège de France, qui est chargé de recherche au CNRS et qui est au sein du laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France et qui s'intéresse à l'anthropologie de la vie et des représentations du vivant. Je signale que dans le cadre du projet Origines et conditions d'apparition de la vie, il organise avec Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer un cycle de films débat autour de la thématique de la vie extraterrestre. Donc, un des points d'entrée pour nous aujourd'hui. Et enfin, pour terminer cette trop longue prise de parole, je suis désolé d'accaparer le micro, Timothée Rey, qui est professeur de lettres histoire et qui est lui aussi un novelliste et romancier de talent. Je mentionne simplement ces deux polars préhistoriques, Les souffles ne laissent pas de traces et La mer des ondes et des crues. Et je signale, il nous en parlera peut-être, que dans l'anthologie des Utopiales de cette année, il aborde cette question de la perception du temps sous l'angle du végétal extraterrestre, mais voilà, il nous en parlera peut-être lui-même. Alors, sans plus attendre, je lance cette table ronde en nous demandant finalement, enfin vous demandant, ce que signifie penser, envisager le temps des autres, au sens large, au sens que voudrait envisager. Et j'aimerais d'abord interroger, c'est eux qui décideront, qui s'emparent du micro le premier, Jean-Sébastien Steyer et Péric Pitrou, autour de la question de savoir si la perception du temps doit être envisagée comme une construction éminemment biologique et ou ethnologique, culturelle. Alors, qui ouvre le feu ?
Bien. J'ouvre le feu. Alors, la perception du temps au niveau organique, au niveau spécifique, elle est d'abord, je pense, avant tout génétique, puisque, en fait, biologiquement, si on décrit l'organisme d'une manière très naturaliste, donc quelque part très froide, vos rythmes circadiens, le jour, la nuit, le sommeil, l'horloge intestinale, etc., sont gérés par une toute petite région de la taille d'un pois chiche que vous avez dans le crâne. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez un pois chiche seulement dans le crâne, et moi non plus. Hein. Le pois chiche est enrobé, en fait, d'un cortex, de l'hypothalamus, etc. Mais c'est, en jargon biologique, ce qu'on appelle le noyau suprachiasmatique, c'est-à-dire une toute petite région de quelques millimètres cubes qui est située au niveau du croisement des nerfs optiques. Et cette région-là, elle gère, en fait, c'est un petit peu l'horloge primaire de la gestion de votre rythme circadien, chez l'homme, en tout cas, et chez beaucoup de mammifères. Après viennent, d'une manière secondaire et harmonique, au sens quasi physique du terme, d'autres horloges dans votre intestin, dans vos intestins, dans votre estomac, au niveau dermique également, au niveau oculaire, etc., qui sont en phase ou en opposition de phase ou en demi-phase. En tout cas, ils interagissent aussi avec cette horloge centrale. Et cette gestion, entre guillemets, en fait, de l'information, de l'horloge biologique, est contrôlée, en fait, par plusieurs familles de gènes qu'on retrouve un peu partout dans le vivant, d'ailleurs. Alors, ces familles en question, elles s'appellent, il y a différents types de gènes, il y a pair, pour période, il y a clock, bon, évidemment, il y a aussi cis, pour cytochrome, je crois, une protéine, en fait, qui fixe aussi les couleurs et qui fait partie un petit peu de la gestion aussi de la luminosité au niveau dermique. Donc, c'est une famille de gènes qu'on retrouve en plus un peu partout, de la drosophile jusqu'à l'humain. Et donc des gènes qui seraient peut-être, sans doute même, hérités en fait d'un ancêtre commun bien antérieur à l'apparition des insectes d'une part, hein, drosophiles, et puis les mammifères. Donc il y a une base en fait ou une composante assez importante génétique. Et puis ensuite il y a tout le contexte déjà individuel parce que vous n'avez pas forcément faim en même temps que les autres, et puis culturel et anthropologique.
Oui, alors pour aller dans la direction de cette multiplicité, je pense que on n'a pas affaire à non seulement une perception chez différents êtres, animaux, végétaux ou aliens. On pourrait partir de l'idée que même un individu, au cours de son existence, a des perceptions différentes du temps. Donc c'est les idées que vous avez souvent entendues durant ces quelques jours. On a une perception subjective du temps qui n'est pas la même que celle du temps objective. Donc ça, c'est des choses assez qu'on expérimente quotidiennement. Si on se penche sur la question de la perception, précisément, si on revient au sens même du terme, qui, comme l'est le percepteur des impôts, la perception, c'est quelque chose qui vient prélever une partie de quelque chose. Et si on a cette idée en tête, eh bien, on se rend compte en fait que la perception du temps n'est pas simplement une sensation un peu brute qu'on pourrait avoir de quelque chose qui passe. C'est toujours une façon de mettre en relation deux ou plus éléments du réel, deux fragments qu'on va en détacher. C'est pour ça que toute perception, quand on parle d'une perception du temps, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a à la fois des éléments sensibles qu'on va capter, par exemple une libellule et plutôt un papillon et une chenille, et il y a une idée qui va mettre en relation ces deux phénomènes, qui va être l'idée du devenir. Autrement dit, quand on parle de perception, on parle toujours aussi, quelque part, de concepts qui viennent organiser nos flux sensibles et la façon dont on perçoit le réel. Ça peut être aussi la catégorie de la permanence. Vous partez de chez vous le matin, il y a une maison. Le soir, vous revenez, il y a une autre maison. Donc, c'est deux moments détachés. Mais vous allez avoir la catégorie temporelle de la permanence qui va mettre en relation ces éléments. Alors, pourquoi je fais ce petit détour ? Parce qu'en fait, ça signifie que la façon dont on perçoit le temps dépend des idées qu'on va aussi avoir pour relier ces petites perceptions, mais ça dépend aussi du langage, ça dépend d'un univers social, d'une transmission de savoir, ça dépend aussi d'artefacts, de techniques qui vont, comme l'écriture, comme les calendriers, nous permettre en quelque sorte d'orienter la perception du temps que l'on peut avoir. Tant est si bien qu'il faut d'emblée, et c'est peut-être ça qui ouvre sur la diversité ethnologique, avoir à l'idée cette idée qu'on va percevoir différemment les choses, qu'il y a des artefacts différents, par exemple des calendriers, des systèmes comme Stonehenge d'architecture qui vont se connecter à un temps cosmique, des systèmes d'écriture, etc. Donc les humains élaborent différentes façons, à partir de leur perception, d'élaborer une stabilité de leur conception du temps, stabilité qui va pouvoir organiser le temps social, et ces éléments objectifs sociotechniques vont avoir aussi une influence sur la perception individuelle qu'on va pouvoir avoir du temps, et c'est pour ça qu'il y a une différence culturelle dans la façon de penser le temps en termes cycliques, en termes linéaires, ou même la façon dont on va découper des fragments de journée en minutes, en heures, ou des fragments d'années en mois et en semaines. C'est-à-dire qu'il y a un temps naturel et un temps conventionnel qui va varier selon les sociétés et selon les contextes historiques. Voilà, on pourra en dire plus tout à l'heure, mais je pense qu'on peut...
Nous rebondirons sur ces questions sans doute. En attendant, Timothée Rey, Sylvie Lainé, à votre gré là aussi, que diriez-vous sur l'importance de cette question du temps perçu, dans la science-fiction ?
La science-fiction, c'est un genre, un sous-genre, mais un genre, où la question du temps est fondamentale, ne serait-ce que déjà parce que... On parle souvent d'anticipation, donc c'est l'idée qu'on se projette dans un avenir plus ou moins probable. Après, on fait pas de la futurologie non plus, quoi. Mais il y a cette idée déjà qui est présente dans l'idée même du genre. Après, il y a énormément de textes qui ont joué sur le temps. Une des premières œuvres majeures du genre, c'est La machine à voyager dans le temps de Wells. Et Wells est revenu. Et d'une façon qui concerne plus la table ronde d'aujourd'hui, dans une nouvelle qui s'appelle Le Nouvel Accélérateur, où c'est un gars qui est un scientifique qui invente un produit qui transforme les gens en flash. En gros, c'est-à-dire que tout d'un coup, notre temps. Il s'injecte le produit et tout s'immobilise autour de lui. Le papillon est au milieu de. Voilà, c'est arrêté. Je crois qu'il y a une balle de fusil, enfin, il y a des choses. Tout est arrêté. Et la science-fiction joue beaucoup avec ça. Avec les ralentissements ou les accélérations du temps. Il y a un auteur qui s'appelle Zelazny, vous connaissez peut-être, Les Princes d'Ambre, tout ça, hein, qui a écrit aussi de la science-fiction. Et un de ses textes des années 60 s'appelle Les Grands Rois Lents. Et c'est deux créatures extraterrestres qui discutent. Et on s'aperçoit que la moindre phrase qu'elles prononcent dure des mois. Et elles ont un petit robot qui, à un moment, elles décident de quitter leur planète et d'aller ailleurs. Elles ont des vaisseaux spatiaux avec des matériaux fissiles. Et le temps qu'elles se décident, les matériaux fissiles sont arrivés au bout de leur demi-vie. Et donc, la conversation a duré des milliers, même des millions d'années, quoi. Donc, il y a dans la science-fiction ce jeu là-dessus. Là, c'est objectivé. Il y a aussi, dans les gens de l'imaginaire, vous arrachez le micro si je parle trop, hein. Je vous le dis. Parce que je peux être super bavard. Dans les genres d'imaginaire, il y a l'idée de la dilatation ou la contraction du temps subjectif peut être poussée dans des cas extrêmes. Il y a une nouvelle de Ambrose Bierce, qui est un écrivain qui a fait à la fois beaucoup de nouvelles sur américains des années 1880-1910. Il est mort On ne sait pas comment il est mort en fait. Voilà. Bon, on s'en fiche. Ambrose Bierce,
il n'est peut-être pas mort.
Voilà. A écrit. Non, il est mort de façon mystérieuse. A écrit une nouvelle assez incroyable qui s'appelle "Ce qu'il se passa sur le pont de Hall Creek". Pendant la guerre de Sécession, un soldat est arrêté et condamné à mort et il va être pendu là sur le pont. Et donc on est dans la tête du soldat et au moment à l'approche de la pendaison, le tic-tac de la montre devient comme si on frappait sur une enclume. Le temps ralentit. Et puis, ça y est, il est pendu, mais il arrive à s'échapper. Et il s'échappe, il nage sous l'eau, des balles. Mais il y a des détails bizarres dans la nouvelle, mais il arrive à s'enfuir, il est dans une forêt étrange, et il y a toute son errance. Puis on s'aperçoit à la fin, en fait, que les. Je spoil, désolé, hein, mais l'essentiel de la nouvelle tient dans les quelques secondes, peut-être même dans les deux secondes, entre le moment où son cou, où il tombe dans le vide, et où la corde. Et on a cette espèce de dilatation énorme, donc, qui est mise en scène. Et à l'inverse, il y a aussi des contractions du temps. Je prends un seul exemple, une nouvelle d'un écrivain américain qui s'appelle Matheson, où un type, Matheson, c'est du fantastique moderne, hein, un type, un jour, s'aperçoit que son temps accélère, un petit peu ce qu'on a, nous, de ce sentiment que le temps accélère avec l'âge, hein, c'est-à-dire que, bon, on parlera peut-être à nouveau, c'est un sentiment subjectif. Chez Matheson, le gars, finalement, a l'impression de vivre un film, tellement le temps est accéléré, et d'ailleurs, au moment de son décès, devant ses yeux, en miroir, il voit écrit le mot « fin ». Et donc sa vie sera devenue un film hollywoodien d'une heure trente. Donc la science-fiction et le fantastique, hein, parce que là j'ai donné des exemples issus du fantastique, mais beaucoup. Après il y a Philippe K. Dick, il y a un million d'auteurs qui ont énormément parlé du temps, mais les histoires de temps subjectif intéressent beaucoup aussi la science-fiction et le fantastique. Et vous m'arrachez le micro.
Je vais enchaîner sur ce que vient de dire Tim, parce que le temps subjectif, c'est une des grosses thématiques autour du virtuel, les intelligences artificielles, les univers numériques sont des univers dans lesquels on vit en temps subjectif, et d'ailleurs où la durée de la vie devient une inconnue totale, parce qu'on n'est plus dans le temps ressenti, on n'est pas exactement dans le temps biologique, et on peut même éventuellement envisager l'immortalité si on arrive à se projeter sous forme d'une créature numérique. Donc, bien évidemment, ça oblige à tout repenser. Mais au-delà des questions classiquement traitées par la science-fiction, il y a aussi des choses assez bizarres qui ont été traitées par la science-fiction, au sens où, par exemple, on peut avoir des espèces, des cultures qui vivent à des rythmes différents, qui n'ont pas le même temps, qui sont intelligentes, capables de communiquer et qui se rencontrent. Moi, il y a un roman, je crois qu'il avait été écrit par un physicien, parce que c'est de la hard science, qui s'appelle « L'œuf du dragon » de Robert Forward, que j'ai trouvé complètement extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui met en scène la rencontre entre une civilisation qui vit à la surface d'une étoile naine dont la gravité est une planète, une étoile extrêmement dense, donc la gravité de l'environnement est stupéfiante, et la race, les Shila, qui vivent sur cette planète dans des conditions épouvantables. Le fait de se soulever d'un demi-centimètre, c'est un effort monstrueux. On a d'abord le développement de leur civilisation, mais à un moment donné, on a la rencontre avec l'espèce humaine, et à ce moment-là, c'est là qu'on découvre que le vaisseau humain sera en orbite pendant 2 ou 3 jours, et pendant cette période, plusieurs générations de Shila vont communiquer avec les êtres humains, puisque entre une question et une réponse, eh bien, il s'écoule une vie entière pour un Shila. Donc c'est tout à fait fascinant. Mais y a plein de manières de faire des expériences de pensée bizarres. On fait des expériences de pensée tout le temps avec la science-fiction. On peut imaginer, tu parlais de temps culturel ou social, on peut imaginer des formes de société dans lesquelles on a des temps cycliques beaucoup plus marqué que dans nos sociétés à nous. On est toujours dans le cyclique sur une approche générationnelle ou à des échelles plus courtes sur la durée du jour. Mais moi, c'est ce que j'ai joué avec ça dans l'opéra de Chaya, avec des cycles qui correspondent à la fréquentation d'une race particulière pendant un certain temps, jusqu'à ce que les apports de cette race s'étiolent un peu et qu'il faille aller en chercher une nouvelle. Et puis à l'intérieur de ça, des cycles plus courts de reproduction. Voilà, on peut faire des tas d'expériences de pensée.
Oui, je pense à Heliconia aussi. C'est 3 romans de
d'Aldis. Ou, ah oui, je peux prendre, vous préférez que je prenne le micro, sinon je parle super fort.
Non, non, c'est mieux quand même.
D'accord, okay.
C'est mieux quand même.
Ouais, mais non, je vous laisse pardon parce que vous vouliez parler en fait. Mais juste, je fais une parenthèse. Je fais juste une parenthèse. Aldis, c'est un écrivain anglais, là, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'un hommage lui est rendu durant ses Utopiales.
Yeah.
Et il y a un roman extraordinaire en trois volumes, enfin trois romans, Le printemps d'Heliconia, L'été d'Heliconia, L'hiver d'Heliconia, où c'est un monde qui a un cycle justement extrêmement long parce qu'il y a deux étoiles. Et il y a tout un moment où le monde entre en ère glaciaire. Il y a d'autres créatures assez mystérieuses. Enfin bon, et voilà, autre expérience de pensée, quoi.
Et c'est vrai que les différentes perceptions du temps font vraiment partie de l'exotisme, entre guillemets, recherché dans la science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a le langage qui peut rajouter cette espèce de miscommunication, il y a la perception du temps, il y a la technologie ou pas. Mais quand on creuse un peu dans le monde vivant naturel, Péric prendra le relais pour le monde vivant culturel, la perception du temps entre un éphémère 24 heures de vie adulte, bon, quelques mois en fait à l'état larvaire, et chez les plantes le maximum de longévité par individu, c'est le pin brittle stone dans les rocheuses en fait canadiennes, 5000 ans chez les plantes. Chez les animaux, c'est le corail noir d'Hawaï qui fait à peu près 4200 ans quand même. Et je parle d'individus, je parle pas de systèmes racinaires avec émergence de clones. Sinon, vous dépassez en fait les 5000 ans avec des sortes de mycorhizes champignons en fait qui perdurent par clones interposés. Je parle vraiment d'individus. Donc déjà, dans le monde vivant, vous avez un spectre de perception du temps très vaste.
Alors, peut-on parler de perception du temps et comment se représenter cette perception du temps ? Parce que c'est bien de parler de longévité d'un pin ou d'un éphémère, enfin de la façon. Mais est-ce qu'on peut se représenter ? Est-ce que ça a un sens de parler de perception du temps chez ces êtres ? Et est-ce qu'on a le moyen de se le représenter ? Et est-ce qu'il y a, encore en quelque sorte, une frontière de représentation pour le scientifique ?
Alors c'est vrai que
Péric voudrait réagir aussi, mais un début de réponse.
Alors évidemment, tout à l'heure je disais qu'en fait la perception à la fois implique des données psychologiques, conceptuelles, sociotechniques et en fait cosmologiques, une façon d'organiser les données de l'expérience. Et ça, on en a des traces dans les différentes cultures humaines. Alors évidemment, la question est de savoir ce qui se passe chez les animaux. Alors malgré tout, du côté de l'ethnologie et de l'expérience humaine, on peut aussi avoir une expérience indirecte qui est l'expérience qu'on peut faire dans des situations d'empathie, d'attribution d'agentivité ou d'intentionnalité. Par exemple, le chasseur amazonien qui va se mettre à la place de la proie pour essayer de percevoir le monde à partir de son point de vue sont des pratiques qui attestent d'une capacité à ne pas être enfermée dans notre perception humaine. Et il y a des attitudes mimétiques dans le monde animal qui attestent qu'il y a cette capacité aussi à avoir un peu de déplacement. Alors ce qui est intéressant pour faire le lien entre le monde vivant et le monde culturel, c'est que pendant très longtemps, les sciences sociales ont considéré qu'il y avait d'un côté la nature, d'un côté la culture, et c'est un dualisme ou une dichotomie qu'on tend à dépasser, en particulier pour reconnaître que les humains ont toujours constitué ce qu'on appelle des communautés hybrides avec des végétaux et des animaux, avec des êtres vivants, et que pour correctement vivre avec ces communautés hybrides, par exemple pour pratiquer l'élevage, pour cultiver du maïs ou du riz, il faut qu'à un moment donné, alors je ne sais pas si les humains se mettent vraiment à la place des non-humains, mais en tout cas, qu'ils intègrent dans leur champ de temporalité la temporalité propre à tous les autres êtres qui existent. Alors, c'est une forme, en quelque sorte, de perception du temps qu'on pourrait qualifier systémique, c'est-à-dire une façon de penser les différentes échelles temporelles des êtres vivants comme une sorte de, je dirais, d'écosystème global qui oblige à bien calculer en fait les interactions entre chacun de ces éléments, ce qui vaut aussi pour le microbiote dont on parlait tout à l'heure.
Sébastien, vous...
Oui, c'est vrai que la longévité, alors les animaux ou les plantes n'ont pas conscience de cette directe, de cette perception du temps. Mais cette perception du temps, quelque part, elle existe, ce que je disais tout à l'heure, génétiquement parlant, ne serait-ce que dans les cycles de développement. Les cycles de développement vont s'enclencher en fonction aussi, en proportion presque de la longévité de l'individu en fonction des espèces. Et à l'inverse, On peut utiliser en fait les espèces développées dans différentes œuvres de science-fiction pour parler aussi de la perception du temps. Si on prend par exemple le cas d'Alien, le monstre alien de Giger, repris par Ridley Scott et beaucoup d'autres, il a finalement un cycle développemental extrêmement long, même si le stade ectoparasitoïde, le facehugger et puis le chestbuster, c'est assez rapide en termes de parasitisme. L'œuf, cette espèce d'œuf en fait aliénoïde, peut rester des centaines d'années, hein, on le voit dans le dernier Covenant, à l'état justement d'œuf, jusqu'à ce qu'une pauvre victime humanoïde ou autre passe par là et se prenne l'affreux exoparasitoïde dans la gueule. Donc ça peut être en fait très long, et c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être aussi, alors plus chez les mammifères que chez les aliens ou chez d'autres xénomorphes, une relation aussi entre la taille, la longévité et cette perception du temps.
Et alors, justement, pour du point de vue de la science-fiction, c'est un défi, du coup, important de tâcher de rendre compte d'une perception du temps, ou d'une perception en général, mais une perception du temps différente de celle de la nôtre. Mais pourtant, il faut la transformer en quelque chose qui soit en continuité avec nos représentations. D'ailleurs, donner la possibilité au lecteur de se décentrer.
Alors, il y a des raccourcis, je pense. Je pense qu'on a envie d'une espèce de forme d'équilibre ou d'équité universelle. On a tendance à raisonner, et on s'aperçoit en écoutant nos collègues qu'il faut sûrement être prudent, sur le fait qu'on aurait tous globalement à peu près la même richesse d'expérience, quelle que soit la durée de vie à laquelle on a droit. Que, en gros, le papillon en 24 heures éprouverait une sensation, une vie aussi intense et radieuse qu'un être humain en 80 ans ou une tortue en 400 ans. Et alors du coup, je me demande si c'est ce raisonnement qui a conduit un certain nombre d'auteurs de science-fiction à imaginer que dans une société où la longévité est beaucoup plus longue que celle que nous connaissons, dans les cavernes d'acier d'Isaac Asimov, par exemple, on a des humains qui vivent en moyenne 400 ans. Et peut-être logiquement, et pour équilibrer le tout, en même temps, on arrive à une civilisation relativement immobile, un peu ralentie, où les gens communiquent peu, interagissent assez peu avec leur environnement. Alors, tous les auteurs de science-fiction qui ont repris le principe de la longévité beaucoup plus grande ou des intelligences artificielles n'ont pas raisonné comme ça. Dans les univers de la culture de Ian Banks, heureusement, il y a la guerre. Alors là, on a plein de trucs à faire et il se passe plein de choses intéressantes. Mais le monde de la culture...
Ils ont plein de manières de s'amuser en dehors de la guerre, au contraire.
Oui, mais enfin bon, disons
mais on le voit pas dans les romans. Mais
ça pimente bien les choses quand même. Parce que... dans une société où tous les besoins sont comblés, toutes les possibilités sont ouvertes, le grand risque, c'est quand même de s'ennuyer. Hein, c'est ce qui les terrifie, a priori.
Et alors, le cas extrême de ce que tu dis, c'est une nouvelle de Borges, en fait. Borges, auteur argentin, dans le recueil L'Aleph, le premier texte s'appelle L'Immortel. Et c'est un soldat romain qui cherche le fleuve aux immortels. Et quelque part, là, vers les colonnes d'Hercule, au Maroc, il tombe sur une ville bizarre qui est habitée par des troglodytes. Qui sont totalement des hommes retournés à l'état sauvage, sales, mal vêtus, et ils ont bu de l'eau de l'immortalité. Et en fait, il y a tellement de temps que finalement, plus rien ne vaut rien. Et lui-même boit de ce... il s'appelle Marcus, il est légionnaire romain, il boit de cette eau, et il va vivre jusqu'au 19e siècle. Et à un moment, il ne se rappelle même plus s'il est lui, Marcus, ou Homer, ou quelqu'un d'autre. Il y a une fusion, de son identité se dégrade. Et alors, il y a un auteur de science-fiction aussi, ça me fait penser, Kim Stanley Robinson, dans un de ses premiers textes, qui s'appelle « Les menhirs de glace », nous montre des gens qui découvrent des menhirs de glace sur des lunes de Saturne ou je ne sais plus où, et ils ne se rappellent pas, ils sont immortels ou quasi, c'est eux-mêmes qui les ont montés, mais voilà, peut-être 2000 ans. Seulement leur mémoire, et je ne sais plus pourquoi, il n'y a pas de support externe. Quoi. Mais en tout cas, ils ont oublié, il n'y a plus de traces de ça. Hein, le problème, c'est aussi donc soit perdre l'identité, soit même, tout bêtement, on n'a pas le... C'est pour ça qu'il y a tous les transhumanistes, fils de Kurzweil, tout ça, qui veulent qu'on ait des mémoires externes, voilà. Si on devient immortel. Parce que le cerveau, il n'est pas fait pour, quoi.
Alors, je vais bientôt ouvrir les questions, mais je laisse Péric réagir.
C'était juste pour prolonger sur une idée précédemment dite, sur l'idée d'un temps commun, en fait, en parlant de communauté hybride, le fait que les humains vivent avec des végétaux et avec des animaux. Je pense qu'on peut suggérer l'idée qu'à un moment donné, la perception du temps intègre la perception d'autres êtres. Et on pourrait faire une sorte de gradation entre des êtres qui sont dans le temps, qui ont une sorte de fonctionnement temporel, mais qui ne font pas l'objet, ils n'arrivent pas à formuler, à objectiver le temps comme le font les humains. Et puis après, il y a aussi, parce qu'on pourrait dire que finalement, certains animaux sont capables d'objectiver un petit peu ce temps ou cette perception du temps. Il y aurait des traces qui pourraient être indiquées, traces d'impatience ou des traces qui donnent l'impression que, on n'est pas face à un être qui n'a pas perception de l'avant et de l'après. Et on aurait un autre stade, et je pense que c'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on parle du temps. C'est pas simplement avoir la mémoire du passé et éventuellement la capacité d'anticiper le futur. Percevoir le temps, c'est aussi percevoir le temps comme quelque chose de simultané qui implique d'autres personnes qui sont dans d'autres espaces que ceux dans lesquels on vit. Et avoir un temps partagé, c'est pas simplement le temps partagé de l'interaction avec un animal et un végétal, c'est aussi, je pense, la possibilité de dire qu'on a un temps commun avec d'autres êtres avec lesquels on n'est pas en face à face. Et je pense que c'est une façon de dire que par-delà la différence entre aliens, animaux, humains, il y a aussi la possibilité d'avoir ce temps commun dans le face-à-face, dans la proximité du vivre ensemble, mais aussi dans un monde symbolique qui rend présent des êtres qui ne le sont pas forcément en chair et en os.
Alors je vais ouvrir le champ aux questions. Il y en a une ici. Je voulais juste réagir sur une petite chose. C'est juste les abysses de réflexion que peut causer éventuellement le fait de se représenter des communautés humaines étendues sur des étendues galactiques et ce que ça veut dire que d'avoir un temps partagé avec des gens qui vivraient sur d'autres planètes ou éventuellement d'autres systèmes solaires. Bon, mais c'est pas à moi d'y répondre. Oui,
une question. Selon les espèces, en fait, il faut aussi inclure la vision des images. Par exemple, j'ai un exemple avec les escargots, en fait. C'est vrai que si on voit le monde dans les yeux d'un escargot, la perception du temps, c'est comme si on était très rapide, le temps est accéléré. Les yeux peuvent être aussi une espèce de porte vers la perception du temps, parce que pour un escargot, le temps est comme très très rapide, genre les images passent à grande vitesse, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que selon les espèces, on n'a pas la même perception du temps, qu'on soit extraterrestre, qu'on soit animal, végétal... Bref, le temps, il passe plus ou moins vite sur les espèces.
Exactement. D'ailleurs, chez vous, chez nous, 10% seulement des cellules rétiniennes sont directement reliées via le nerf optique à ce fameux noyau suprachiasmatique, là, ce pois chiche de tout à l'heure. Et quand on vieillit, malheureusement, ces cellules rétiniennes sont un petit peu altérés, âgés avec le temps, ce qui expliquerait pourquoi plus on est âgé, plus on aurait éventuellement des problèmes de sommeil aussi. Donc effectivement, le système oculaire, que ce soit l'œil d'un escargot, l'œil humain, qui ressemble d'ailleurs à d'autres yeux céphalopodes ou l'œil à facettes chez d'autres espèces, participe à cette perception en fait temporelle.
Il y a un rapport avec la musique, parce que là vous parlez en fait qu'on n'a pas de sens de perception du temps, donc vous dites que ça passe par l'œil.
Mais est-ce en partie.
Par exemple, la musique qui est quand même le temps est très important en musique. Et est-ce qu'il y a une raison biologique au fait, par exemple, je sais pas du tout selon les différentes peuplades, est-ce que des musiques sont, enfin, vous voyez ce que je veux dire, on a par rapport à la musique ou en tout cas ce qui passe par l'audition, le rythme aussi, par exemple, pourquoi, quelle importance?
Ah, l'audition. Alors, voilà, c'est ça, l'audition. La musique, c'est plus à Péric de répondre, mais l'audition, en fait, c'est comme si, dans le vivant, en tout cas, presque chaque organe a sa propre horloge. Alors, l'audition doit sans doute participer aussi, quelque part, à cette perception du temps. Ne serait-ce que dans le plaisir qu'on a à écouter certaines musiques, y a un facteur temps, bien sûr, il y a un tempo chez les musiciens qui fait qu'une partition est en deux temps ou en quatre temps, etc. Donc déjà, il y a cette notion du temps inhérente en fait à l'œuvre musicale, et puis il y a cette perception du temps personnel que l'on a aussi en écoutant le morceau en question.
Alors c'est
ça
vrai.
Ça dépend des civilisations, des ethnies.
Là, entre la poire et le fromage, c'est un peu difficile de donner une réponse tout à fait nette. L'idée qui me vient, c'était une exposition magnifique qui a eu lieu l'an passé à la Fondation Cartier, le concert des animaux, qui permettait d'écouter, allongé dans une salle un peu comme celle-là, complètement obscure, des sons, des paysages sonores enregistrés dans différents endroits naturels. Et on se rend compte que les animaux, en fait, occupent des niches acoustiques qui sont différentes. Donc là, la réponse que j'aurais à donner, c'est pas trop tant le temps qui passe qui serait exprimé à travers la sonorité, mais davantage le fait de se positionner dans un même environnement, de la même manière que les signaux visuels peuvent permettre à chacun de trouver sa place. Il y aurait aussi des sons qui permettraient à des animaux de se repérer, de savoir où, qui est qui. Voilà, c'est ça. Mais je réponds pas à ta question.
C'est le radar. C'est un peu le radar des chauves-souris, par exemple.
Oui, oui,
ça peut être. Déjà des systèmes basés sur des fréquences.
Alors, il y a une question ici, oui, monsieur.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais essayer d'être bref et clair dans ma question. Il me semble bien, par des expériences qui ont été menées par exemple, des spéléologues qui sont restés dans des grottes pendant plusieurs jours dans le noir, etc., que notre horloge interne n'était pas de 24 heures, mais plutôt 25 ou 26. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer du coup que j'ai pas, voilà, que c'est correct. Et si oui, quelle serait la raison de ce rythme plus long que la rotation de la Terre, par exemple, sur elle-même? Et est-ce que ça nous aurait procuré un avantage évolutif ou... Voilà, est-ce que vous pouvez juste m'expliquer un petit peu ça?
La raison, je ne sais pas si... Alors, est-ce qu'il faut forcément aussi chercher une raison? Parce que quand on cherche une raison, c'est une quête de sens. C'est plus, quelque part, une tentative d'explication du comment. Mais par contre, effectivement, même si on a l'impression qu'on est réglé, enfin, je voulais pas donner cette impression finalement qu'on est réglé comme des métronomes, même s'il y a un facteur génétique dans la perception du temps, il y a l'environnement externe et il y a cette capacité, heureusement, d'adaptation ou de perturbation, ce qui fait que le jet lag, enfin le problème qu'on a en fait de perception du temps quand on voyage, c'est un dérèglement de notre horloge circadienne qui fait pas exactement effectivement 24 heures. Et on voit une adaptation assez nette chez les spéléologues qui sont en phase d'isolement en fait à partir d'un certain temps. Et d'ailleurs, au tout début des premières études presque proto-génétiques de cette recherche en fait de la perception du temps, ce sont des observations naturalistes botaniques qui sont faites sur une espèce de mimosa qui s'appelle Mimosa pudica, qui porte bien son nom parce que dès qu'on touche la feuille, elle se rétracte, et elle se rétracte en même temps dans la nuit. Et les botanistes en question ont observé que même avec un éclairage constant, la feuille en question se rétracte chez le mimosa jusqu'à une certaine période de réadaptation à partir d'un certain degré. Donc il y a quand même cette plasticité qui fait que heureusement on est quand même quelque part pas réglé comme des métronomes et tout n'est pas aussi mécanique que ça.
Je pense à au sens de dérèglement, je pense à ce film, il y en a d'autres, mais ce film qui s'appelle Primer, dans lequel il est question de voyage dans le temps cyclique et répété, et une des choses les plus vertigineuses dans ce film, c'est la façon dont visuellement le réalisateur parvient à nous faire saisir à quel point la biologie et la perception du temps devient totalement déréglée chez les individus qui sont concernés, à tel point qu'au bout d'un moment, on n'est même plus certain de ce qu'ils vivent et de quand ils le vivent. Et donc, il y a vraiment une capacité ici à représenter le dérèglement de la perception du temps par le voyage dans le temps. Primer, un film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Une question ici d'abord.
Il y avait un budget de 1000 dollars.
Oui, avec un budget effectivement réduit. Alors, une question.
Oui, alors ma question c'est, alors si la perception du temps se fait dans le cerveau, entre les neurones, est-ce que selon la taille du cerveau, donc selon la distance qu'il y a entre chaque neurone, la perception du temps peut être modifiée? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, si les neurones sont très distants, bah du coup, le message nerveux va mettre beaucoup de temps à arriver dans certaines régions du cerveau, et donc la perception du temps va en être modifiée.
Alors, il y a un facteur, effectivement, taille par rapport à la zone stimulée au niveau neurologique et l'organe de contrôle, en fait, des informations, c'est-à-dire le cerveau chez nous. Mais, encore une fois, l'évolution bricole, l'évolution, ça, la vie s'adapte, et chez certaines formes géantes bien réelles comme l'Architotis par exemple, ou les calmars géants au sens large, les kraken entre guillemets, on a en fait des axones, c'est-à-dire des cellules nerveuses très longues qui transmettent le potentiel d'action en fait nerveux, qui présentent en fait des gaines de myéline super épaisses pour augmenter en fait la vitesse de propagation du système nerveux, pour pas que quand un requin attaque le bout d'un tentacule du kraken en question, il mette des plombes à réagir et à lui mettre voilà. Donc il y a quand même effectivement les limites physiques organiques de la vitesse de propagation de l'influx nerveux en fonction du système, etc., de la longueur du système, mais il y a des bricolages adaptatifs qui font que c'est pas parce que forcément on est grand ou long qu'on a des temps de réaction en fait quasi infinis.
Mais donc là c'est les temps de réaction dont on parle, mais la perception du temps vraiment elle en est quand même modifiée ou... Parce que les deux sont liés, du coup.
Ça.
On commence à voir aussi, sans la télépathie, vous permettez.
Ouais.
Okay. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question, malheureusement. Ça sera la dernière parce qu'il faut qu'il y ait une circulation. Je vous signale que vous pourrez rester dans la salle cette fois-ci. On va voir un petit peu les consignes de sécurité évoluent, mais voilà. Donc si des gens veulent rester pour la session, vous pouvez rester ici. Et je signale. Par ailleurs, avant la question, que pour ceux que la perception du temps intéresse et qui veulent continuer la chose, n'hésitez pas à aller voir la jetée qu'il y a juste après, à 16h15, et notamment avec une présentation sans doute magistrale d'Olivier Cotte, et qui est suivie même d'une réflexion sur la jetée, enfin en tout cas sur la perception du temps et la présentation de la perception du temps en science-fiction. Ce petit film de Chris Marker est magistral. Oui, pardon, votre question.
Donc ma question, c'était, en fait, au début, vous avez commencé par parler d'êtres vivants sur Terre qui vivaient très très longtemps, des végétaux. Et du coup, je me demandais s'il n'y avait pas un lien par rapport, en fait, à une espèce de date de péremption par rapport au nombre d'individus. Et du coup, comme on est tout le temps en train de rallonger la vie humaine, je me demandais un petit peu l'intérêt d'essayer de vivre le plus longtemps possible, alors que finalement, bah, peut-être que la planète ne nous suffira plus. Et qu'à un moment donné, c'est peut-être ça commence. Enfin, si tout le monde vivait 200 ans, vu le nombre qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'à un moment donné, ce serait pas, enfin, impossible à vivre et invivable, et qu'on allait trop contre la nature et notre date de péremption entre guillemets.
Je pense que c'est exactement pour ça qu'on relie habituellement les contextes, les concepts de longévité et d'immobilisme. Parce que si on vit deux fois plus longtemps, il faut qu'on fasse deux fois moins d'enfants. Si on veut rester la même population. Sur un territoire donné avec des ressources qui ne sont pas inépuisables, si on continue à procréer sur le même principe, ça explose, c'est une évidence.
Et les villes nomades de Bleach partent justement. Des gens qui ont une très grande longévité peuvent partir à la conquête des étoiles. Parce que le voyage en infraluminique sera très long. Eh ben dans ce cas-là, c'est à partir du et en plus c'est presque une question de c'est pas près, c'est une question de vie ou de mort parce qu'on pourra pas à un moment sursaturer un territoire. Donc il y a l'idée qui est souvent en science-fiction que il faut absolument conquérir des nouveaux territoires. Quand je dis conquérir, c'est terraformer ou vivre sous dôme ou aménager l'humain pour qu'il puisse vivre sur d'autres mondes, peu importe, parce que à un moment si on allonge la durée de la vie, ça suffira pas, la planète suffira pas bien sûr.
Voilà, je pense que nous allons clore ici la table ronde. Merci à vous, merci à mes intervenants. Okay.